Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Et oui, il est 6h avant minuit, mercredi 22 avril 2026. Tu es une femme ou minorisée de genre et tu souhaites t'initier au mix, il reste des places pour le dernier atelier Baby DJ organisé par Syllab. C'est gratuit et ça se passe dans notre studio à Villejean. C'est le mercredi 29 mai prochain de 11h à 17h. Aux manettes, cette fois, ce sera la DJ Pulco Turbo. Pour t'inscrire, tu peux nous écrire à contact@c-lab.fr.
Et on commence tout de suite avec le flash d'Héloïse.
Prise navale pour les gardiens de la Révolution. L'armée idéologique de l'Iran a annoncé avoir intercepté 2 navires dans le détroit d'Ormuz. Les bateaux, considérés en infraction, ont été redirigés vers les côtes iraniennes. Il s'agirait du MSC Francesca, un porte-conteneur sous pavillon panaméen, et de l'Epaminondas, naviguant sous pavillon libérien. Un autre incident a été signalé par l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO. Des tirs d'origine inconnue auraient visé un autre cargo sous pavillon panaméen à 8000 nautiques à l'ouest de l'Iran. Sur le plan diplomatique, la situation reste confuse dans la région. Donald Trump a prolongé hier soir le cessez-le-feu avec l'Iran tout en refusant de lever son blocus naval dans le détroit d'Ormuz. Entre la Russie et l'Ukraine aussi, la situation est tendue et les attaques continuent. L'Union européenne devrait être en mesure d'octroyer un prêt de 90 milliards à l'Ukraine, tandis que la rencontre entre les chefs d'État peine à être organisée. Léonore nous résume tout ça.
La guerre Russie-Ukraine continue après avoir fait 4 morts cette nuit, 2 du côté russe et 2 du côté ukrainien. L'état-major de l'armée ukrainienne a annoncé cet après-midi avoir recensé 49 tentatives d'avancée russe depuis le début de la journée.
Le chef d'État a également annoncé une nouvelle importante hier, il me semble.
En effet, Volodymyr Zelensky a indiqué que la réparation de l'oléoduc Droujba était achevée. Celui-ci achemine du pétrole russe jusqu'en Hongrie et en Slovaquie en passant par l'Ukraine. Il avait été bombardé le 27 janvier dernier par l'armée russe. Cette réparation impacte directement la décision de l'Union européenne d'accorder un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait fait de la réparation de l'oléoduc une condition pour lever son veto pour ce prêt. Les ambassadeurs des pays membres de l'UE ont donc approuvé cet après-midi le déblocage du prêt. Une décision saluée par le chef d'État ukrainien.
Beaucoup d'enjeux donc autour de la réparation de ce passage pétrolier.
En effet, Volodymyr Zelensky a d'ailleurs tenté de faire de ce point de passage pétrolier un atout stratégique. Il a par exemple demandé avant sa réparation que Budapest s'engage à lever son veto sur le 20e paquet de sanctions contre la Russie. Le chef d'État ukrainien souhaitait aussi l'ouverture des négociations pour que Kiev puisse adhérer à l'UE. S'il avait finalement revu ses exigences à la baisse, l'Union européenne vient d'approuver le 20e paquet de sanctions contre Moscou.
Et qu'en est-il de la potentielle rencontre Zelensky-Poutine-Léonore ?
Le chef d'État ukrainien l'attend avec impatience. Il demande depuis des mois un face-à-face avec son homologue russe. Point anguleux, le lieu. La Russie a plusieurs fois proposé à Volodymyr Zelensky une rencontre à Moscou. Pour la présidence ukrainienne, hors de question, il faut un terrain neutre et une médiation internationale pour viser une désescalade concluante. Le Kremlin ne s'oppose pas à cette rencontre, mais souhaite qu'un document de paix substantiel soit finalisé avant tout sommet. Problème, les discussions piétinent depuis quelques mois.
Et quels sont les désaccords justement, Léonore ?
Moscou veut que l'Ukraine reconnaisse les annexions des territoires occupés. Bien évidemment, Volodymyr Zelensky refuse toutes ces territoriale. Le Kremlin demande aussi que l'Ukraine renonce à rejoindre l'OTAN et réduise ses capacités militaires. L'Ukraine, elle, exige le retrait total des troupes russes et des garanties de sécurité internationale concrètes. Des exigences impossibles à accepter pour les deux côtés pour l'instant.
C'était un décryptage de Léonore, merci à toi. Et si la guerre en Ukraine devait s'étendre, la Belgique sera prête. Médicaments, eau en bouteille, chargeurs, papiers d'identité, pour se préparer au choc d'une catastrophe naturelle ou d'un éventuel conflit armé, le gouvernement du plat pays invite ses ressortissants et ressortissantes à préparer un kit d'urgence. Pour Bernard Quintin, ministre de l'Intérieur belge, la question n'est pas de faire peur, non non, mais de ne pas se mettre la tête dans le sable face à une situation géopolitique plus inquiétante qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. En France, on n'a pas de kit d'urgence, ni de pétrole, mais on a des aides à l'achat de carburant. Le Premier ministre a annoncé hier un nouveau coup de pouce pour les grands rouleurs. Une prime de 20 centimes par litre sera versée en juin aux travailleurs et travailleuses modestes, fragilisés par la hausse des prix à la pompe. 3 millions de personnes devraient pouvoir en bénéficier, soit les Français et Françaises gagnant moins de 17 000 euros par an seuls, ou moins de 50 000 euros par an pour les couples avec deux enfants. Autre critère, parcourir 30 km par jour pour aller travailler, ou alors 8 000 km par an en cas de déplacement professionnel. Le versement sera unique et rétroactif sur les mois d'avril, mai et juin. Pour le recevoir, il faudra déclarer votre situation sur le site impots.gouv.fr dans les semaines à venir. Est-ce l'effet Wemby? Alors que le joueur de basket français vient de remporter le trophée individuel NBA hier, la Fédération internationale de basket fait une annonce historique aujourd'hui. Pour la toute première fois, la Coupe du monde de basketball aura lieu en France en 2031. La compétition se tiendra à Lyon, Lille et Paris. Et il ne fait aucun doute que Victor Wembanyama y aura toute sa place. Freinage d'urgence sur le site de production de Stellantis à Chartres de Bretagne. La fabrication va se mettre en pause pendant 3 jours et demi à La Jeannet. La firme automobile évoque des problèmes d'approvisionnement concernant des boîtes de vitesse. L'activité a déjà été stoppée 2 jours durant la semaine dernière. En temps normal, 410 véhicules sortent chaque jour de cette usine qui ne produit qu'un seul type de voiture, la Citroën C5 Aircross. La ferme de Quincé soutient l'association Utopia 56 et elle le fait savoir. Ce vendredi 24 avril, le collectif organise une soirée au profit du collectif humanitaire venant en aide aux migrants et aux migrantes. L'intégralité des recettes sera reversée à l'association. Adrien Champas, coordinateur de la ferme de Quincé, nous explique l'initiative au cœur de cet événement.
Il se trouve que depuis quelques semaines maintenant, il y a des personnes qui dorment en tente dans le parc, dans un parc à Beauregard. Et du coup, il y a toute une énergie de soutien qui s'est développée dans le quartier Beauregard avec des habitants. Et nous, étant présents sur ce quartier-là, on souhaitait rejoindre la démarche de soutien et notamment en organisant vendredi soir une soirée de soutien à la ferme de Quincy de 18h à 23h avec des DJ sets, des artistes qui viennent jouer du coup gratuitement. On aura le collectif Plasque, on aura la présence d'Alexis Lumière et Hildegarde en DJ set. Et donc tout le prix libre qui sera versé à l'entrée sera reversé directement à l'association Utopia 56. Ça nous est déjà arrivé par le passé de travailler avec Utopia 56 et de reverser de l'argent. On a aussi mis en place des bacs de collecte en lien avec l'association sur la ferme. Le projet de la ferme de Quincé, par définition, il est militant et politique. On est en proche d'Utopia 56 et quand on a su qu'il y avait un campement qui s'était installé à Beauregard, c'était naturel pour nous de les accompagner. On offre aussi la ferme pour organiser des réunions de soutien avec les habitants et l'association. Donc voilà. C'est naturel pour nous. Il y a des gens qui souhaitent venir nous filer un coup de main, j'en profite pour faire un appel. Vous pouvez nous envoyer un message sur les réseaux sociaux. Mais on sera une 10-15 de bénévoles côté Quincé du coup pour accueillir cette soirée. Après, on a une jauge de 500 personnes, donc on a de la marge. Donc voilà, on espère que le public viendra nombreux pour soutenir cette cause qui nous tient à cœur. Il y aura des bonnes choses à manger, il y aura de la super musique et c'est pour une cause qui est super importante pour venir en aide aux exilés et qui sont sans solution aujourd'hui et donc c'est important qu'on se mobilise.
La voix d'Adrien Champas de la ferme de Quincé au micro de Léonore. Rendez-vous donc ce vendredi à la ferme de Quincé dès 18h. Cette ferme-là, elle n'est pas à la fête. Près de Combourg, la commune de Dinger est en deuil. Un agriculteur a trouvé la mort aujourd'hui. L'homme de 69 ans était retrouvé coincé sous son tracteur. En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, la victime n'a pas pu être ranimée. 14 pompiers sont intervenus avec le renfort de 2 ambulances, 2 véhicules légers et un engin de désincarcération. Il s'agit du 2e accident mortel en Ille-et-Vilaine ce mois-ci. Le 10 avril dernier, un homme de 80 ans avait perdu la vie écrasé par son tracteur lui aussi. C'est la fin de ce flash, on passe à l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
Zéro heure.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
À toi, Léonore.
La troisième édition de BAL se déroulera du 28 avril au 8 mai. Aujourd'hui, Rachel Dufief, responsable du pôle programmation, lunettes aux écailles claires et cheveux courts, est avec nous pour nous expliquer tout ça. Bonjour.
Bonjour.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le Théâtre L'Air Libre et le joli collectif qui organise le festival ?
Ouais, bien sûr. Alors, le Théâtre L'Air Libre, c'est un théâtre municipal qui se situe à Saint-Jacques-de-la-Lande, qui est accessible en métro et en bus à genre 20 minutes de République, je le dis parce qu'on dit toujours que c'est loin. Un théâtre qui est dirigé aujourd'hui par une compagnie qui s'appelle Le Joli Collectif, dont le directeur artistique est Vincent Collet. Et donc on est toute une petite équipe à installer un projet depuis 2023 maintenant là-bas, et avec une saison qui commence dès octobre et qui se termine là en mai avec BAL.
Et justement, art, culture, théâtre, BAL, ce sont une dizaine de jours festifs, accessibles à tous et conçus par et pour les jeunes. D'où est-ce qu'elle est venue, cette idée ?
L'idée, au départ, c'est quand on est arrivé en 2023, une des demandes de la mairie, puisqu'on dépend de la mairie, a été d'organiser un événement plutôt pour les familles, pour la jeunesse. Et nous, à l'époque, on était au Théâtre de Poche à aider. Et on avait déjà cette identité assez propre de faire des spectacles pour tout le monde. Donc l'objectif était de refaire un festival plutôt pensé pour la jeunesse, mais pourquoi pas avec elle. Et donc de faire de la participation, du participatif, et de mener des projets avec eux directement. Et puis en plus, à l'air libre, on a une vraie politique de mener des ateliers avec des collèges, avec des lycées, avec des primaires. Il y a une envie vraiment de faire avec les familles et les enfants toute l'année.
C'est un festival auquel vous auriez aimé avoir accès plus jeune ?
Oui, je pense que j'aurais bien aimé avoir ça dans ma ville, même si venant de Lorient, c'était plutôt dense et il y avait un théâtre et tout ça, puis j'avais des parents qui étaient dedans, mais j'allais pas forcément dans des théâtres dès mon plus jeune âge, et j'y ai trouvé du sens plutôt plus tard. Donc je peux que inviter aujourd'hui les parents qui nous écoutent, ou les grands frères et les grandes sœurs à venir aussi avec leurs frères et sœurs, parce que on va faire la fête, en plus c'est pas cher, donc j'aurais bien aimé moi faire ça.
Pour donner envie un petit peu, comme spectacle directement en lien avec l'enfance, on pourra retrouver par exemple Le Grand Sommeil, le 5 et 6 mai. Il me semble que c'est l'occasion de bousculer les idées reçues. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette prestation ?
Ouais, carrément. Donc Le Grand Sommeil, c'est un spectacle de Marion Sieffert, qui est une artiste assez reconnue, que certaines ont eu l'occasion peut-être de découvrir au TNB il y a quelques années, dans le cadre du festival. Elle propose un spectacle qui a un point de départ un peu étonnant, puisqu'il avait été confié à sa comédienne adulte et à une très jeune enfant, mais pour des raisons de juridiction et de cadre légal, l'enfant a dû quitter le projet. Et donc la comédienne a repris un solo à partir de tout ce qu'il y avait, de tout le processus de ce duo, et de raconter un peu c'était quoi la norme de l'enfance. Et donc elle parcourt comme ça un solo de danse avec un double visage entre et qu'est-ce que c'est d'être une adulte qui fait l'enfant et qu'est-ce que c'est d'être une enfant qui fait l'adulte. Donc c'est assez étonnant, ça bouscule vraiment les codes de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de danse et de ce que dirait de spectacle jeune public, mais on s'y retrouve quand même, et il y a un côté assez politique aussi de arrêtons quelque part de croire que les enfants ne peuvent pas comprendre ce qui se passe, et nous c'est un enjeu.
Et justement, en parlant d'enfants, plusieurs écoles auront aussi la chance de participer à BAL. Comment ça se passe une création en partenariat avec une école ?
Alors, je vais prendre l'exemple d'une collaboration qu'on fait avec le collège Jean Moulin. C'est des élèves de 3e qui travaillent avec une artiste, Betty Chomanga, qu'on a eu l'occasion, nous, d'accueillir dans notre précédent festival, Monde. En fait, depuis quelques mois, ils font des ateliers à l'air libre et au collège. Et ils créent un spectacle avec elle, directement, qu'ils vont pouvoir présenter pendant le festival. Et l'idée, c'est vraiment de faire une collaboration entre une artiste et des élèves, à explorer leur corps, explorer ça veut dire quoi de faire un spectacle, explorer une partition, et un petit peu les pousser dans leur retranchement vis-à-vis de ça, tout en prenant du plaisir, évidemment. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut faire en invitant des élèves, c'est de leur faire vivre l'expérience de faire un spectacle et de la scène.
Et en se faisant se côtoyer amateur et professionnel, quel message vous voulez faire passer au public ?
L'idée, c'est évidemment que le théâtre, il est fait pour toutes et tous. Notamment en proposant chez nous, dès 7 ans, des ateliers pour les enfants, tous les mercredis après-midi, et pour les pré-ados aussi, de jusqu'à 14 ans. Et pour eux, c'est un peu l'occasion de découvrir, bah, justement, pareil, comment on fait un spectacle, et puis bah, d'avoir un moment où qu'est-ce que ça veut dire de le montrer devant un public. Et donc, pour nous, c'est ça, allier une programmation avec à la fois des amateuristes et à la fois des professionnels, c'est que tout ça peut cohabiter. C'est hyper important de ne pas mettre les choses à différents niveaux. Pour nous, ça doit exister, et on fait en sorte quand même que ça soit gratuit pour les gens, pour que aussi il faut faire attention à la pression pour ces jeunes amateurs, mais ils vivent l'expérience pour de vrai, comme des vrais professionnels.
Question un peu plus terre à terre maintenant, le festival approche à grands pas, on le rappelle, il se déroulera du 28 avril au 8 mai. Comment se passent les préparatifs ?
Alors, ça se passe bien. On sent que les gens sont en vacances parce qu'on aimerait bien que ça réserve un peu plus, donc n'hésitez pas, il est temps de se jeter sur la billetterie. Nous, on est hyper pressés d'accueillir les compagnies, dont notamment aussi j'en profite pour parler du spectacle de Kian Cauchois qui s'appelle Wannabe et qui commence mardi. Et en fait, ce spectacle, c'est carrément une chambre d'ado où on est en train de retraverser le répertoire de genre Beyoncé et j'en passe. Et c'est hyper festif, hyper joyeux. Donc voilà, mais l'équipe est au taquet et ouais, on espère surtout qu'il y aura plein de monde.
Pendant le festival, on peut aussi retrouver des ateliers de théâtre et des jeux immersifs. Est-ce que l'idée, ce serait pas un peu de créer du lien à travers l'expression corporelle ?
Si, bah, c'est tout à fait ça. Et c'est ce que je disais, c'est plutôt de faire avec, en fait. L'objectif, c'est vraiment de faire ensemble. Donc, par exemple, la proposition du jeu immersif qu'on propose dès mercredi après-midi, la semaine prochaine, c'est que ce sont des jeunes ados de Saint-Jacques qui ont, dans leur centre social, ont préparé un jeu type escape game. Et on leur a dit qu'ils pourraient venir à l'air libre, puisque c'est un terrain de jeu. Et on leur dit, bah, vous pouvez venir faire ça à l'air libre, et en plus, on pourrait faire une billetterie, et en plus, ça pourrait devenir comme ça un peu un enjeu de le présenter. Donc, pour eux aussi, c'est comment on se dit que ça peut être sérieux tout en s'amusant. Donc, ouais, c'est carrément ça.
Vous nous en avez aussi un peu parlé, c'est un événement qui est presque entièrement gratuit, il n'y a que deux spectacles qui sont payants. C'est important pour vous de se rendre ce festival accessible à tous ?
Bah de toute façon, c'est oui, évidemment, c'est important, mais de toute façon, c'est l'accessibilité de l'air libre depuis 2023. L'idée, c'est que il y a bien deux spectacles payants, mais en réalité, on propose un pass à 30€ pour les étudiants et 50€ pour les gens. Donc, arriver normalement au mois de mai, ils n'ont pas l'impression de payer déjà de base. Mais oui, le maître mot de nos valeurs, je dirais, c'est l'accessibilité et la diversité. Donc, c'est un enjeu.
En effet, on l'a vu avec l'exemple du spectacle dont on a parlé tout à l'heure, Le Grand Sommeil, mais aussi avec votre utilisation de l'écriture inclusive, par exemple, dans vos flyers. BAL, c'est un festival engagé. Est-ce qu'il y a aussi de votre côté une volonté d'accompagner les jeunes dans cette éducation ?
L'idée, effectivement, c'est de... Alors, je dirais que par rapport à l'écriture inclusive, ça, c'est un sujet, en vrai, parce que certains diraient que ce n'est pas forcément une forme d'accessibilité à lire. Pour nous, c'est quand même important parce qu'on a besoin, en fait, de montrer que féminiser la manière dont on écrit les choses aujourd'hui, c'est une priorité. Et de dire aujourd'hui aux ados, aux enfants qui fréquentent notre lieu, qu'on peut inventer, en fait, ensemble des nouvelles règles et qu'on peut se poser. Et l'année prochaine, par exemple, on a envie d'organiser des conférences, on a envie d'organiser aussi des choses que eux pourront proposer et mettre en place pour créer de la diversité.
Je me permets de revenir un petit peu sur la programmation. Le vendredi 8 mai, ce sera l'occasion d'inaugurer la nouvelle place Jules Vallès. Pour l'occasion, l'équipe de BAL s'associe avec le collectif d'habitants un samedi à l'aéroport. Que se passera-t-il pour ce dernier jour du festival ?
Alors, donc, ça sera la fête de fin de saison déjà. Dire que cette année, on finit un peu tôt pour plein de raisons. Je pense que... on a fait ce choix-là, ça peut être un peu tôt pour les gens, mais on va faire une grande fête qui commencera dès 16h avec des jeux, des palais, des jeux immersifs, une buvette qui est pensée vraiment avec le collectif depuis des mois, donc on est très contents, un espace d'exposition. Et puis ensuite, ça sera le moment de faire la restitution des ateliers spectacles dont je parlais tout à l'heure, des enfants de 7 à 11 ans. voire 14, excusez-moi. Et ensuite, il y aura une scène ouverte. La scène ouverte, c'est un moment pour chacun de venir montrer son talent caché, que ce soit le chant, le piano ou même de jouer peut-être une impro. Ça peut être le moment. Et puis enfin, un grand marathon de la danse à 20h30 sur la place où on invite tout le monde à venir à partir de jeux, à partir d'improvisation, danser pendant 3 heures. Et c'est animé par la DJ McLarnac.
Plein de nouveautés donc cette année. Qu'est-ce que vous aimeriez que le public retienne de cette édition 2026?
Eh ben, qu'on peut faire la fête en réfléchissant. C'est un peu bête à dire, mais l'idée, nous, c'est toujours de proposer des spectacles engagés, mais dans lesquels on peut s'amuser aussi, qu'on peut aussi faire ensemble, que les ados, mine de rien, c'est pas forcément facile d'aller les chercher, parce qu'aujourd'hui, il y a TikTok et il y a Snapchat et tout ça. Mais en fait, on est hyper content de faire avec quelques groupes d'ados qui ont aussi envie d'être... de faire partie finalement de la chose quoi.
Et on en a parlé un peu en off, vous préparez déjà l'édition de 2027.
Ouais.
Comment ça se passe tout ça?
Et c'est vertigineux finalement de se dire qu'on va faire un festival à nouveau l'année prochaine, le même. Donc moi, je me dis surtout qu'on va vivre cette 3e édition de Bâle, regarder ce qui a bien fonctionné avec le public, avec les familles, et puis peut-être confirmer des intuitions pour organiser un festival sur 10 jours aussi, ce qui est un enjeu pour nos équipes, parce que nous, on fait 2 festivals de 10 jours cette saison. Est-ce que ce format-là convient? Est-ce que les Jacques-Hollandine aussi seront au rendez-vous? Moi, c'est tout ce que j'ai en tête quand on construit notre programmation, et surtout de faire encore et toujours de proposer des spectacles qui parlent à toutes et tous dans nos différents espaces, puisque nous, on a plein d'espaces à l'air libre et que les gens trouvent leur compte finalement.
Justement, on n'a pas encore parlé du format. Pourquoi avoir choisi de faire un festival sur 10 jours?
L'idée, c'était de pouvoir accueillir les assos aussi et les restitutions des ateliers. L'année dernière, on avait fait le choix de faire qu'un festival de 3 jours où on avait quasi que des spectacles professionnels. Et pour nous, il fallait qu'il y ait un tournant sur Bâle. Donc, on a décidé de le rallonger pour en accueillir encore plus et surtout des amateuristes.
Très bien, et bien merci Rachel Dufief. Pour rappel, la 3e édition de Bâle se déroulera du 28 avril au 8 mai.
Merci.
6h avant minuit.
6h avant minuit.
Loïsa est de retour pour sa chronique littéraire. Ça faisait un moment. Ça s'appelle Des mots sur la langue. Et c'est tout de suite.
Des mots sur la langue.
Je le vis. Je rougis. Je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étranger et brûlé.
Les livres de Loaiza.
Elle ne se situait que très légèrement au-dessous de la moyenne d'âge du personnel du Project. Elle était surprise du nombre de fois où elle entendait parler de « contribuer à un monde meilleur ». Lorsqu'elle demandait aux autres pourquoi ils travaillaient pour Andreas. Elle s'étonnait qu'une formulation aussi ridicule, si noble soit le sentiment qu'elle exprimait, soit encore utilisée quelque part sur la planète. Apparemment, avoir le sens de l'ironie n'était pas une priorité dans la liste des compétences requises pour travailler ici. À la place d'Andreas, pour contribuer à un monde meilleur, Pip aurait peut-être commencé par intégrer quelques éléments féminins à l'équipe technique. À l'exception d'Anders, un Suédois gay très beau, qui avait des compétences journalistiques et rédigeait des résumés de révélations du Project, la répartition des tâches selon le sexe était parfaite. Les garçons faisaient de la programmation, dans un bâtiment sans fenêtres et très sécurisé, de l'autre côté du pré des chèvres, tandis que les filles, rassemblées dans la grange réaménagée, s'occupaient du développement communautaire, d'ARP et de l'optimisation du référencement, vérifiait les sources et dialoguait avec les intermédiaires, mettait à jour le site et tenait les comptes, enquêtait, communiquait sur les réseaux sociaux et rédigeait du contenu. Chacune d'elles avait un parcours plus fascinant que celui de Pip. danoise, britannique ou éthiopienne, italienne, chilienne ou manhattanienne, elles semblaient avoir passé leurs années d'université non pas à aller en cours. Elles avaient déjà lu et relu Ulysse à 12 ans, tout en fréquentant des écoles privées pour les surdoués. Mais à s'absenter de Brown ou de Stanford durant des semestres entiers, en vue d'exercer des boulots fabuleux pour Sean Combs ou Elizabeth Warren, de combattre le sida en Afrique subsaharienne ou de coucher avec les fondateurs non diplômés des start-up milliardaires de la Silicon Valley. Il était désormais clair pour Pip que le Sunlight Project ne pouvait pas être malsain ni sectaire, car les autres jeunes femmes n'étaient pas du tout du genre à commettre des erreurs. Son parcours et ses attentes à elle n'avaient douloureusement rien de fabuleux.
C'était Purity de Jonathan Franzen. Purity, c'est pas un livre qui est véritablement inratable, c'est pas une œuvre majeure, mais c'est un livre qu'on a envie de dévorer de la première à la dernière page. Et en passant, il aborde des sujets que je trouve intéressants. Parce que Jonathan Franzen, c'est un super auteur contemporain américain, c'est un romancier, c'est un essayiste, et il a beaucoup de finesse. Moi, l'exemplaire que j'ai, c'est un pavé, en fait. C'est un livre à la couverture rigide. Et donc, c'est quelque chose d'assez encombrant. Mais en regardant la page de garde, je me suis rendu compte que je l'avais quand même emporté, bah oui, dans des cafés où je buvais des cafés de façon interminable, mais aussi sur une île sauvage, sous la tente. Et voilà, donc il m'a accompagné. Il était encombrant. Et pourtant, j'avais envie de le trimballer partout. Donc, c'est ce genre de livre, un livre d'aventure, avec un très beau personnage de jeune femme paumée. Franzen, il a écrit Les Corrections, Freedom, Purity, plus récemment Crossroads. C'est des longs romans parce qu'ils développent la psychologie des personnages en profondeur. Et les personnages sont interconnectés. C'est des personnages qui sont compliqués, qui doutent, qui ratent des trucs, qui sont imparfaits, comme la vie. Et du coup, on est vraiment en prise avec le réel et c'est ça qui rend les histoires prenantes. Et là, dans le passage que j'ai choisi, la jeune femme, elle arrive en Bolivie parce qu'elle se retrouve dans l'histoire à s'engager pour une organisation de lanceurs d'alerte, dans l'espoir de retrouver la trace de son père. Et il se trouve que cette organisation a un chef charismatique et que ça va nous amener aussi à parler de son passé, et ça va nous amener à Berlin, quand c'était Berlin-Est. Donc on part de Berkeley, en Californie, on va en Bolivie, on se retrouve à Berlin-Est, à une autre époque. Donc il y a du voyage. C'est vraiment un roman contemporain qui décrit notre monde, hyper connecté. Il y a des trucs comme Wikileaks, et il est même question de Julian Assange. Donc on se pose des questions, qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est vrai? Et comment est-ce qu'on peut mener sa barque dans ce monde-là, dans un monde imparfait, avec des gens imparfaits? Et avant tout, c'est un roman d'initiation. On nous avait habitués plutôt à des quêtes initiatiques au masculin. Et là, Franzen, il nous propose une jeune femme, maintenant, qui va être en quête de ses origines, de son identité. Donc je pense que Purity, vous allez le lire dans votre lit, dans un train, dans des cafés et dans des jardins, en faisant la queue au supermarché. C'est un livre qui va vous emporter, qui va vous faire partir à l'aventure.
C'était Des mots sur la langue, signé Loïsa Jacques. On jette une oreille sur le répondeur.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
La radio sauvage.
Pas de message ce soir, le répondeur est vide. 02 30 96 25 35. On vous écoute, exprimez-vous, c'est le moment, c'est fait pour ça. Ce soir à la technique, c'était Timothée. Merci à toi. À demain dans 6 heures avant minuit.
Si. La radio sauvage.
Et le
est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure très
bien. 6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.